Alors, bonjour et bienvenue en ce beau mercredi soir. Quelle belle journée. Ici, sur la côte nord, ces derniers jours, il y a eu de la pluie, mais il y a eu aussi du très beau temps. Alors, j'espère que dans les bois francs, c'était aussi beau qu'ici, ça l'a été. Mais certainement que ce soir, à cause de la parole de Dieu, à cause du Seigneur, ensemble, on va pouvoir avoir un temps béni. Avant de poursuivre, on va remettre ça au Seigneur. Père, je te rends grâce, Seigneur Dieu, que tu es un Dieu qui est fidèle, un Dieu qui n'est pas isolé, un Dieu qui n'est pas lointain, un Dieu qui est près de nous, qui est tout près de nous, Seigneur Dieu, qui marche avec nous, qui nous aime, qui prend soin de nous. Merci, Père, pour tout ce que tu fais dans ton précieux nom, Seigneur Jésus. Amen. Alors, ce soir, j'aimerais qu'on puisse parler ensemble. Vous savez, la marche chrétienne, c'est une marche qui est remplie. En fait, c'est la vie. Hein? La vie est remplie d'obstacles. La différence entre le croyant et le non-croyant, c'est que le croyant a un recours. Hein? A un recours à une haute retraite. À quelqu'un qui peut prendre soin de lui et à qui il peut avoir recours. Parce que vous savez, la marche chrétienne, dans cette vie qui est si pleine d'embûches, la marche chrétienne, c'est pas un sprint. La marche chrétienne, c'est un marathon. C'est un marathon, et même, je vous dirais, c'est un marathon de marche rapide et non pas de course. Parce qu'on doit persévérer. Et souvent, la persévérance, c'est pas quelque chose qui... la persévérance, c'est jamais quelque chose qui se fait à grande vitesse. Hein? Il faut pouvoir mesurer notre temps, sachant que la route va être longue, sachant qu'on doit marcher de manière à persévérer jusqu'à la fin. Veiller. Hein? Combien de fois le Seigneur Jésus nous encourage à prier et à veiller. Pourquoi? Mais parce que quand on ne prend pas le temps de prier et de veiller, et c'est ce qu'on va voir ce soir, on a tendance à perdre notre raison d'être en tant que croyant. Et si la Bible, si la parole de Dieu va nourrir notre vision, et elle doit nourrir notre vision, elle doit nourrir, nous abreuver pour qu'on puisse marcher de manière digne dans le Seigneur, la prière, veiller et prier, qu'est-ce que ça va faire? Bien, ça va nous rappeler qu'on n'est pas seul. Ça va nous rappeler que Dieu n'est pas lointain. Souvent, et la Bible dit, mais souvent, on a tendance à voir Dieu comme étant au ciel, qui fait ce qu'il veut, comme nous le dit les psaumes. Mais on a tendance d'oublier que Dieu est tout proche, que Dieu est là, avec moi. Qui marche avec moi. La Bible dit qu'il est tout près de ma bouche, tout près de moi. Jésus va dire dans la fin des évangiles qu'il œuvre avec nous, qu'il marche avec nous, qu'il travaille avec nous. Et donc, quand on va prier, quand on va s'approcher de Dieu dans la prière, une des choses qu'on va réaliser, que ça va développer chez nous, c'est cette proximité. Réaliser que Dieu, que la présence de Dieu, et que Dieu est tout proche de nous, tout près de nous. C'est pour ça que les temps de prière, c'est si important et c'est si sacré. Hein? Déjà, l'Église, avant de commencer, les premiers disciples se sont rassemblés dans une chambre haute. Regardez avec moi dans Acte 1. Verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Bon, les nombres des personnes réunies étaient d'environ 120. Alors, les gens qui sont là se réunissent dans une chambre haute et prient. Ils vont prier ensemble. Et ça, on se rappelle l'importance de la prière. Souvent, il y a les prières individuelles. Tourne avec moi dans Acte 6. Dans Daniel 6, excusez-moi. Daniel chapitre 6. Et Jésus va nous encourager dans le sermon sur la montagne, quand on prie, une des choses qui va nous encourager, c'est d'aller dans le lieu secret. Mais on voit que ce n'est pas la seule forme de prière. Mais il y a cette forme de prière d'entrer dans un lieu secret et de prier. Regardez dans Daniel, chapitre 6. Ça dit que, verset 3, tiens. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et ces hommes disaient, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Alors, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Bien, écoute, c'est un gars intègre. C'est un gars qui ne vacille pas de la loi de son Dieu. Il est tellement intègre qu'on ne peut pas trouver rien contre lui. Alors, on va essayer de faire un piège en utilisant la loi de son Dieu. Et donc, ses chefs et ses satrapes se rendirent, verset 6, tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. « Roi Darius vit éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers, les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. » Maintenant, au roi confirme la défense et écrit le décret, afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Alors, on se rappelle, hein, à cette époque-là, à l'époque de Daniel, il y avait un roi qui pouvait faire une loi ou émettre un décret. Et ce décret pouvait être changé, sauf s'il s'agissait d'un décret spécifique, c'est comme une expression engagée, une expression fixe. Un décret selon la loi des Mèdes et des Perses. Et ce genre de décret-là était irrévocable. Et même le roi ne pouvait pas, une fois que le décret était lancé, le roi lui-même ne pouvait pas révoquer ce qui avait été décrété. Alors, l'idée ici, c'est que les satrapes, les intendants, les chefs veulent piéger Daniel et vont piéger le roi. En même temps, parce que le roi aime Daniel, mais ils ne lui disent pas. Ils lui font faire un décret, selon la loi des Mèdes et des Perses, que le roi même ne pourra révoquer. Et donc, là-dessus, verset 8, le roi écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel, et écoutez bien ça, comment Daniel est un homme intègre. Lorsque Daniel sut que le décret a été écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et trois fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Et Daniel va prier. Et là, donc, ces hommes vont rentrer, ils vont saisir Daniel, qui est en train de prier, qui est en train d'évoquer son Dieu, ils vont l'amener au roi. Et là, il y a toute la belle histoire hein, de Dieu qui utilise des anges pour préserver Daniel, même dans la fosse aux lions. Et donc, c'est une belle histoire, mais Daniel va être jeté en prison précisément parce qu'il est dans sa chambre et il prie. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Qu'est-ce qu'on remarque dans cette histoire-là? C'est que Daniel, quand il va prier dans sa chambre, chez lui, il va prier les fenêtres ouvertes, il va prier, il va s'adresser à Dieu, mais qu'est-ce qu'on remarque? C'est qu'il prie à voix haute. Il prie à voix haute de manière à ce que les hommes l'entendent prier. Évidemment, S'il avait prié en lui-même, évidemment que personne n'aurait entendu. Et ça, c'est une des choses qui est quand même récente dans l'histoire de l'Église, la pratique. Et, bon, les hommes ont toujours prié en eux-mêmes, les chrétiens ont toujours eu des temps de prière où c'était une prière dans le cœur. Okay? Par contre, l'idée de prier pratiquement continuellement dans son cœur, c'est quand même nouveau. Parce que c'était courant. Hein? C'était la pratique normale que lorsque tu priais, tu t'exprimais à voix haute. On le voit ici dans Daniel. On pourrait le voir à plein d'endroits. On le voit dans le temple. Quand Jésus est dans le temple, vous vous souvenez dans... c'est quoi le verset déjà? C'est... dans Luc 18. Dans Luc 18, quand le pharisien, hein, deux hommes sont debout, Luc 18, 10. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre était publicain. Deux hommes, le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Alors le pharisien est debout, il prie en silence et dit, « Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères et même, ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Et là, c'est intéressant de voir ça parce que le pharisien prie en lui-même. Le publicain, lui, qui se tient à distance, n'ose même pas lever les yeux au ciel, il se frappe la poitrine, mais lui, il va prier à haute voix, il va dire, « Oh Dieu, sois apaisant vers moi qui suis un pécheur. » Bon, ça ne veut pas dire que la prière en soi-même, c'est la prière des pharisiens, hein, et que l'autre prière est toujours, et que la prière à haute voix est tout le temps acceptable. C'est pas le but du message ce soir. Le but du message ce soir, c'est de réaliser l'importance de la prière pour la marche chrétienne. Par contre, je voulais juste faire un petit à côté pour faire réaliser que lorsqu'on prie ensemble, hein, le groupe de croyants dans la chambre haute, hein, oui, ils priaient eux-mêmes, mais ils priaient à waouh, il s'exprimait devant Dieu. Quand, dans Acte 1, on retourne dans Acte 1, verset 24, laissez-moi voir. Oui. Ils firent cette prière. « Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu choisis. » Mais regardez bien ici ce qui est intéressant. C'est qu'ils firent cette prière au Seigneur. Dans ensemble, d'un commun accord, ils vont prier le Seigneur. Okay? Et donc, c'est d'un commun accord qu'ils vont faire des prières au Seigneur. Ils vont s'exprimer. C'est pour ça que c'est important, quand on est en groupe, quand on fait des temps de prière, de prendre le temps d'exprimer notre prière. Et c'est souvent, dans les temps de prière, les gens vont être plus réservés, vont avoir une certaine pudeur à ne pas vouloir s'exprimer à haute voix. Mais non. Quand on est en prière, c'est vrai qu'on est en groupe, mais on est en groupe devant le Seigneur. On est en groupe devant le trône de Dieu pour obtenir miséricorde. Et là, il faut joindre notre parole à celle des autres. Il ne faut pas avoir cette fausse pudeur d'avoir peur de s'exprimer dans la prière. Il faut prier ensemble. Il faut que le corps d'un commun accord prie et demande les choses. Quand Pierre est emprisonné, ils sont réunis et ensemble d'un commun accord, ils vont exprimer la prière, ils vont demander à Dieu de libérer Pierre. Un ange va le libérer. Donc, c'est vraiment important de réaliser la puissance de la prière de groupe et ensemble pour l'Église. Parce que, comme je vous ai dit tantôt, quand on ne veille pas et on ne prie pas, on a tendance à détacher la marche chrétienne du spirituel et de penser que Dieu est au ciel alors que nous, on est sur terre et qu'il n'y a comme pas de pont entre les deux. Mais la Bible dit que Dieu est tout près de nous, tout près. Mais la Bible dit aussi qu'on doit veiller et prier, exprimer notre prière à Dieu et ensemble, seul, hein, Jésus a dit, va dans ta chambre, ferme la porte, mais aussi en communauté, en groupe, pour qu'ensemble, on soit motivé, pour qu'ensemble, on aille de l'avant, pour qu'ensemble, hein, on garde la vision de marcher d'un même pas. Cette prière de corps, cette prière corporative, cette prière, vous comprenez ce que je dis par corporatif? Un corps. En tant que corps, quand on se réunit dans le corps pour prier, faire connaître, hein, les besoins. Parce que la prière, écoutez, l'adoration, la louange, il y a plein de sortes de prières. Okay? Mais la prière, au sens propre du terme, la prière en tant que telle, qu'est-ce que c'est, la prière? Mais la prière, c'est demander à Dieu quelque chose. Si tu ne demandes pas, au sens propre du terme, tu ne pries pas. Il y a des temps de louange. Et ça, c'est extraordinaire. Et regardez bien, hein, quand l'Église primitive, dans les évangiles, dans les actes, et les saints, qu'on voit les saints dans la Bible louer Dieu, ils le louent à haute voix. Ils l'expriment. Vous allez dire, oui, mais Dieu est proche, il connaît ce que je parle. Non, 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 non. Dieu veut, ça fait partie de sa volonté de Dieu, de louer et de l'adorer et de le prier à voix haute. Il y a une puissance dans l'expression à voix haute d'une prière, d'une louange. Ça dit que Dieu habite la louange de son peuple. Mais comment est-ce qu'il peut l'habiter si c'est silencieux? On doit apprendre à exprimer à voix haute la louange, la prière, l'adoration, pour qu'ensemble on s'encourage. Comme les guerriers d'antan qui criaient quand ils allaient attaquer quelque chose pour s'encourager ensemble. Ensemble, dans un corps, dans une unité, on se réunit. On se réunit pour louer. Ça veut dire que quand on loue Dieu ensemble d'une même voix, on va exprimer les hauts faits de Dieu. On va célébrer Dieu pour ses hauts faits, pour ses victoires, pour ses, hein, et par les chants, par les hymnes spirituels, on va prier à voix haute. Mais aussi, on ne va pas seulement louer le Seigneur à voix haute. On ne va pas seulement adorer le Seigneur à voix haute. On va aussi faire des requêtes, des supplications à voix haute. Et la prière, encore une fois, je vous le dis, dans son sens propre, dans son sens, qu'est-ce que ça veut dire le mot prière quand, si on le traduit? C'est sûr qu'il est traduit par... Le mot prière traduit plusieurs mots grecs. Mais parmi les mots grecs que le mot prière va traduire, ces mots-là, habituellement, parlent d'une requête, d'une demande, d'une supplication pour avoir quelque chose. Donc, il ne faut pas être gêné. Il ne faut pas être... faut pas avoir cette fausse pudeur, hein, de prier et d'avoir peur d'exprimer sa requête à Dieu. Au contraire, c'est la volonté de Dieu de louer, de l'adorer, de le prier à voix haute. Et on s'encourage dans ce temps-là. On s'encourage et personnellement, je suis certain que quand le corps se réunit et qu'il fait savoir à voix haute la louange, l'adoration et la prière, l'ennemi de nos âmes est tellement un être orgueilleux que quand on loue Dieu, on élève le Seigneur, quand Dieu habite les louanges de son peuple, qu'est-ce que vous pensez? L'ennemi ne peut que fuir. Quand les prières sont adressées, qu'on est ensemble, corporativement, devant le trône de Dieu pour obtenir miséricorde, l'ennemi n'a aucune affaire. C'est comme si notre Église, la pièce dans laquelle on était, ensemble, devient une pièce du temple même de Dieu. On devient la salle du trône. Et ensemble, on peut parler au roi qui est à côté de nous, qui est devant nous. Comme si ensemble, nous étions devant le trône, et qu'ensemble, de commun accord, on exprimait au roi ce qui nous tient à cœur. On lui chantait des louanges, on lui, un peu comme on voit dans l'Apocalypse. Quand tous les êtres vivants s'expriment et louent Dieu à haute voix devant le trône, il y a une beauté à ça, il y a une beauté, il y a une noblesse à exprimer nos prières, à exprimer nos louanges, à exprimer ce qu'on ressent, confesser. Si vous avez à cœur de confesser une faute, quelque chose en groupe, faites-le. Ce n'est pas un lieu de jugement, c'est un lieu pour s'encourager. Mais la confession, c'est sûr qu'il y a une confession qui peut être privée pour la confession des péchés. Mais la confession positive, par exemple, confesser que Christ est Seigneur, confesser la majesté de Dieu, le mot confesser, c'est affirmer, se mettre d'accord avec, se mettre d'accord ensemble, homo lego. Mais se mettre d'accord avec Dieu, oui, mais ensemble aussi. Sur la majesté divine, sur la seigneurie de Christ, sur l'idée qu'il faut marcher avec Dieu. Et ça fait partie des privilèges des enfants de Dieu. La prière, elle est puissante, la prière. Pourquoi? Parce que on demande au roi de l'univers, écoutez bien, le roi de l'univers accepte de se laisser mander par sa petite créature. Vous comment c'est énorme, ça? Vous comment c'est grand, ça? C'est un privilège. Il faut saisir ce privilège-là. Et oui, il y a la timidité qui va rentrer. Oui, il y a la gêne. Mais il ne faut pas avoir peur. Il faut apprendre à l'exprimer parce que ça fait partie de la volonté de Dieu. Ensemble dans le corps. Il ne faut pas qu'il y ait seulement une ou deux personnes. C'est le temps là, de prier ensemble, d'élever les voix. C'est le temps d'élever nos chants à Dieu dans le temps des louanges, le temps d'adoration. C'est le temps de confesser ensemble à voix haute la seigneurie de Christ. Et là, la nuit, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il ne peut pas rester là. Il ne peut pas rester là. Il doit fuir. Voyez-vous la puissance de la prière? Et ça, c'est la prière en tant qu'activité. Je ne vous parle même pas de la puissance de la prière, des requêtes qui sont faites à Dieu parce que Dieu veut répondre aux prières de ses saints. Alors, il y a une puissance dans la prière parce que c'est la puissance de Dieu qui agit. On demande à Dieu d'agir et Dieu agit. Et ça, c'est puissant, mes amis. La prière, c'est l'occasion. Il y a quelqu'un qui a dit que la prière, c'est comme le nerf fin qui montre de mes lèvres jusqu'à Dieu pour faire fléchir les muscles de Dieu en notre faveur. C'est beau. Et ce qu'il faut comprendre, la prière est puissante, la prière, Dieu agit en réponse à la prière de ses saints, pas parce que je suis puissant, mais parce que Dieu est gracieux, Dieu est miséricordieux, Dieu est rempli de compassion. Dieu veut répondre à la prière des siens. Dans les Écritures, souvent, on va voir Dieu qui daigne fléchir et écouter et se laisser attendrir par la prière des siens. Alors, ce soir, c'est une chose que je veux qu'on retienne ensemble. C'est une chose que je veux qu'on s'édifie, qu'on s'encourage ensemble. C'est de dire, j'ai mes temps de prière personnelle. Et ça, c'est sacré. Mes temps de louange, de confession de péché, de louange, d'adoration, de requête, de supplication, d'intercession. En l'intercession, c'est demander quelque chose pour les autres. Mais la supplication, la prière, il n'y a rien de mal à demander pour soi. Là. Dieu nous demande de demander même notre pain quotidien. Hein? à Dieu en prière, tous les jours. C'est comme la manne. Hein? La prière d'hier ne suffit pas. Hein? Vous vous souvenez, dans le désert, ils ramassaient le pain, ils ramassaient la manne dans le désert. Ils ne pouvaient pas ramasser pour le lendemain, sauf pour le jour du sabbat, mais le reste du temps, ça pourrissait. Tout le surplus qu'ils emmagasinaient pourrissait. Ben, c'est un petit peu une image de la vie chrétienne. Hein? La parole que j'ai reçue hier, c'est sûr qu'elle a nourri mon âme et en ce sens, j'ai encore ses bénéfices aujourd'hui. Mais la parole d'hier n'est pas suffisante pour aujourd'hui. Tout comme les prières que j'ai faites hier et avant-hier, ce n'est pas suffisant pour aujourd'hui. Je dois renouveler chaque jour mes prières. Les compassions de Dieu se renouvellent chaque matin dans Lamentations, chapitre 3. Mais nos prières, nos requêtes, nos supplications, notre vie devant Dieu, hein, doivent elles aussi se renouveler chaque jour. On doit s'attendre à Dieu chaque jour. Veiller tous les jours. L'idée même de veiller et de prier, c'est qu'on n'arrête pas. Avez-vous déjà remarqué le lien entre la prière? Et souvent, on est là, on se demande comment est-ce qu'on peut résister à la tentation. Avez-vous déjà remarqué la puissance et le lien entre la prière et la tentation? C'est quelque chose qui est phénoménal. Dans le Notre Père, hein, un des éléments de la prière de Notre Père, c'est « Ne me soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. » Dans le jardin de Gethsémané, là, quand Jésus va parler aux disciples dans Matthieu 26, il va dire ceci. Regardez bien comment c'est important. Il va dire, verset 26-40, il vint vers les disciples, il les trouva endormis, il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu veiller une heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » La prière, elle est puissante, la prière. La prière, c'est, il y a un lien entre la prière et la tentation. Est-ce que tu pries pour ne pas tomber en tentation? Nourrir son âme de la parole, c'est, vous le savez, je suis un inconditionnel de l'importance de la parole de Dieu. Mais la prière, elle est tout aussi vitale parce qu'elle nous permet de marcher avec Dieu, de réaliser, comme je vous le disais tout à l'heure, que Dieu est proche de nous, que Dieu est avec nous, que Dieu marche avec nous. Il nous accompagne. Papa est là, il nous tient la main, il marche avec nous. On peut lui demander ce qu'on veut, il est ici à côté de moi. Priez individuellement, mais aussi, s'il vous plaît, hein, priez à voix haute, priez en groupe. N'ayez pas peur d'exprimer vos prières, d'exprimer vos requêtes, quand vous êtes ensemble. Hein, quand il y a le temps des louanges, louez le Seigneur à voix haute. Soyez pas timide. Hein, soyez hardis, ayez de la hardiesse dans le Seigneur. Exprimez-vous dans la prière, exprimez-vous dans les louanges. Que Dieu vous bénisse abondamment et on se parle tantôt dans le temps de questions et réponses. Que Dieu vous bénisse. Amen.